RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Sommes-nous bien conscients que notre pays est en guerre, et cela depuis 1961 ? En Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, nos soldats n'ont cessé d'être présents sur le terrain. Plusieurs centaines y ont laissé leur vie ou ont été blessés. Depuis 60 ans, nos troupes ont été engagées dans pas moins de 32 grandes expéditions, guerres, confrontations et opérations dites de police internationale. Les soldats français sont ainsi parmi les plus sollicités au monde. Michel Goya, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes tout autant historien que militaire. Vous avez été colonel des troupes de marine et vous êtes aujourd'hui enseignant et auteur spécialisé dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits. Vous avez notamment enseigné à l'école de guerre à Sciences Po Paris. Et votre dernier livre intitulé « Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours » publié chez Talendier, eh bien propose une vaste fresque de cette fameuse guerre mondiale en miettes au service des intérêts de la France. On le verra avec plus ou moins de bonheur. Depuis plus d'un demi-siècle. Avec vous, donc, nous allons remonter ces 60 années de vie militaire française. Également avec nous, Laurent Larcher, journaliste à La Croix, spécialiste de l'Afrique. Bonjour Laurent.
Bonjour Frédéric.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous suivez les questions africaines depuis déjà un grand nombre d'années. Vous avez été sur le terrain avec nos soldats, vous le direz tout à l'heure, à plusieurs reprises, notamment au Mali. Et vous vous êtes intéressé, Laurent Larcher, à la problématique du Rwanda avec un livre publié au Seuil en 2019 intitulé « Rwanda, il parle, la France au Rwanda, 1990-1994 ». Nous y reviendrons tout à l'heure avec Michel Goya, bien évidemment. Voilà le thème donc de cette édition des Racines du Présent, pourquoi et comment, depuis 1962, la France est en guerre.
Les Racines du Présent, Frédéric Mounier.
Les Racines du Présent, notre thème aujourd'hui, pourquoi et comment, depuis 1962, la France est en guerre. Nos deux invités, Michel Goya, à la fois historien et militaire, pour son livre publié chez Talendier, Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours, et Laurent Larcher, journaliste à La Croix, spécialiste de l'Afrique. Alors Michel Goya, je me tourne d'abord vers vous. C'est tout à fait étonnant, vous avez listé un nombre d'opérations militaires tout à fait considérable depuis 1962. On a complètement oublié que la France est engagée militairement sans arrêt depuis 1962.
C'est toute une période très particulière de notre histoire et qu'on pourrait qualifier de temps des opérations, temps des interventions qui sont très nombreuses. On est en réalité même incapable de savoir combien.
À ce point.
Oui.
Alors vous avez quand même listé 19 opérations de guerre et 13 opérations de police.
Oui, alors au total, d'après les comptabilités, on peut aller jusqu'à 400 opérations menées par la France, opérations militaires.
D'accord.
Menées par la France depuis 1962. Je me suis concentré sur les plus importantes d'entre elles, qu'il s'agisse d'opérations de guerre ou de police internationale, donc avec à grande échelle. Alors la distinction entre les deux, c'est que dans le premier cas, on a désigné un ennemi politique.
Mmh, voilà.
Bah, donc on est en situation d'affrontement contre un ennemi politique, État ou organisation armée. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, ce sont des organisations armées.
On y reviendra, oui, évidemment. Oui.
Et puis dans le deuxième cas, il n'y a pas d'ennemi désigné. Donc c'est le deuxième emploi possible du monopole de la force, c'est-à-dire la police. Et donc là, ça se fait à l'étranger, mais on fait également des opérations maintenant depuis sur le territoire national, et qui sont des opérations diverses où il s'agit d'essayer de rétablir un peu d'ordre, de sécurité dans une zone, alors de différentes manières, des opérations humanitaires, d'interposition,
de sécurisation. Maintien de la paix, etc. On va revenir sur tout ça. Avant cela, peut-être une question générale. Nos soldats ont payé le prix du sang. Est-ce que vous avez pu relever le nombre de morts et de blessés sur cette longue période depuis 1962.
Oui, alors moi je fais précisément commencer mon livre en 1961 avec l'attaque sur les combats sur la ville de Bizerte.
On y reviendra dans un instant.
Qui ont fait quand même 27 morts français et beaucoup plus du côté tunisien. Mais au total, vous avez parc Entrée Citroën à Paris, vous avez un monument qui est consacré maintenant aux soldats qui sont morts pour la France dans le cadre de toutes ces opérations. Et autant que je me souvienne, on en a plus de 600 qui sont. Vous avez plus de 600 noms qui sont inscrits sur ce monument.
Et les blessés, on a une idée, notamment les blessés psychologiques dont on parle beaucoup, dont on parle régulièrement.
Oui. Alors les blessés, alors c'est beaucoup plus difficile d'en avoir le nombre, mais il faut à peu près multiplier par 10. Et vous avez vous avez en France encore actuellement des milliers de soldats français qui ont été blessés en opération, blessés dans leur chair ou dans leur âme.
Ou dans leur âme, c'est le fameux stress post-traumatique qui touche beaucoup de nos soldats. Alors, vous avez évoqué une expression, Michel Goya, c'est le monopole de la force. Il faut savoir que ce monopole de la force, du moins son utilisation, répond en France à des conditions très très particulières que vous évoquez dans votre livre et que je crois Laurent Larcher aussi à travailler dans ses livres, c'est ce que vous appelez le pouvoir absolu des présidents de la République. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment du domaine réservé, la force nucléaire, il y a une seule tête, et vous notez l'extrême facilité à déclencher des opérations militaires, et vous soulignez, Michel Goya, que c'est une étrangeté dans un pays démocratique. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a autant d'opérations, parce que c'est facile, et en même temps on a des obligations. Je pense qu'on y reviendra, mais alors c'est facile, oui, parce que les institutions militaires de la Ve République et une pratique aussi, le fait que ce soit le général de Gaulle qui est présidé en premier,
personnalité centrale dans l'histoire,
ça a abouti à une pratique qui fait que en France actuellement, une opération militaire, c'est quelque chose qui est décidé par le président de la République.
Un seul homme.
Voilà, un seul, éventuellement deux dans les périodes de cohabitation. Voilà. Là, on est quand même obligé. Les décisions se prennent normalement en Conseil de défense.
Le fameux Conseil de défense dont on parle beaucoup pour des questions sanitaires.
Voilà.
Au départ était prévu pour des questions militaires.
Uniquement pour les questions militaires, effectivement, et qui est présidé par le président de la République, mais dont les actes sont contresignés par le Premier ministre. Donc en période habituelle, normale, ça pose aucun problème. Période de cohabitation, c'est un peu plus compliqué. Mais toujours est-il que un contre-coup des paralysies ou des problèmes qu'on avait pu connaître pendant la Troisième République, en 1940. De Gaulle reste marqué par cette période et par l'impuissance, notamment de l'État à ce moment-là. Donc on fait un peu l'inverse.
C'est une réaction,
Voilà, avec bien sûr, il y a le fait nucléaire aussi qui ajoute, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où il faut maintenant prendre éventuellement des décisions en cas d'attaque nucléaire, des décisions qui se dans la minute pratiquement.
Voilà. Donc c'est un poids absolument hallucinant qui repose sur un seul homme, et on va le voir au fil de notre conversation à quel point les présidents ont facilement déclenché des opérations militaires. Laurent Larcher, l'un de vos livres intitulé « Au nom de la France, les non-dits de notre diplomatie » publié au CERF en 2018 reprend cette question de cette solitude au sommet de l'État pour décider des opérations militaire, Laurent Larcher.
Oui, alors je voudrais, si vous voulez bien, revenir sur deux ou trois choses qui viennent d'être dites et qui, évidemment, je suis d'accord, mais j'aimerais proposer des précisions. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la France est en guerre depuis 1961. Disons que la Ve République, mène des guerres depuis 1961, des guerres ou des opérations. Je crois que c'est pas tout à fait, à mon sens, en tout cas, la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi dit qu'on a oublié toutes les opérations conduites depuis le début des années 60. En fait, je crois pas qu'on les a oubliées. Je pense qu'on ne les connaît pas. Enfin, ce n'est pas su. Ce sont des choses.
Disons que c'est méconnu,
C'est ça. Et même votre auteur, Michel Goya, dit lui-même qu'il a relevé à peu près 400 opérations, si j'ai bien compris, depuis 1962, mais que lui-même, bien qu'il s'est un spécialiste de cette question, ne connaît pas exactement l'amplitude exacte de ces opérations. Ça touche au fait, effectivement, que nombre de ces opérations sont conduites ou décidées par l'exécutif, par le président de la République, ne sont sans vraiment contrôle, démocratique, du moins, le Parlement n'est pas consulté pour cela. Et surtout, vous avez plein d'opérations qui ont été des opérations secrètes ou des opérations menées de manière clandestine, du moins ou discrètes, secrètes, sans qu'il y ait de débat. Et je vous remercie d'ailleurs de faire cette émission, de consacrer votre émission à ce livre et à ce sujet, parce que je dois dire que moi qui voyage beaucoup, dans les pays occidentaux, nous sommes l'un des rares, pour ne pas dire le seul, à ne jamais vraiment parler de ces questions-là. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les autres pays dans lesquels on engage la force armée, il y a de vifs débats.
Oui, il existe un contrôle démocratique.
Oui, et puis un débat, une discussion, oui. Des avis contraires, alors qu'en France, ceci fait rarement la une de nos journaux, sauf quand il y a des morts du côté des soldats ou des bavures, mais sinon c'est rarement ou jamais traité, c'est quelque chose de très singulier. On est là dans une forme, à mon sens, de vraie carence démocratique, de ce point de vue.
Très bien. Vous confirmez, Michel Goya, cette singularité française ?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait, mais... qui a, d'un point de vue militaire, des avantages. Hein. C'est-à-dire qu'il est très, on peut engager la force très rapidement pour éventuellement mettre fin à une crise. Ça, d'un point de vue des militaires, c'est...
Ils sont plutôt pour.
Oui, enfin, mais après, ça a évidemment un certain nombre d'inconvénients. Y compris des inconvénients très concrets, c'est-à-dire qu'on se retrouve finalement aussi avec un seul homme qui va décider de plein de choses, qui va avoir à gérer, on parlera peut-être du Rwanda,
naturellement,
au moment de l'opération Norwa que j'ai faite, hein, le même président de la République, François Mitterrand, avait à gérer également le conflit en ex-Yougoslavie, l'intervention contre l'Irak d'Aguet, etc. Donc ça contribue pas forcément aussi, j'allais dire, à la profondeur de la stratégie ou à la qualité des décisions.
Alors, vous évoquez Michel Goya, François Mitterrand, et vous soulignez dans votre livre que celui-ci avait beaucoup critiqué l'interventionnisme militaire français, notamment sous Charles de Gaulle et Georges Pompidou.
Giscard d'Estaing, surtout.
Voilà, et Giscard d'Estaing, surtout, on va y revenir. Et puis qu'en fait, François Mitterrand, lui-même, une fois en fonction à l'Élysée, a endossé l'habit de Gaulle avec une vingtaine d'opérations déclenchées.
Oui, il a été très interventionniste, mais on revient toujours à cette personnalisation, en réalité, de l'action militaire en France. Hein. C'est décidé par le président de la République et selon la forme décidée par le président de la République, ce qui peut avoir, pour le dire simplement, le destin souvent d'une opération militaire se décide très largement, souvent dès le départ, dans la tête du président. Quoi.
Et d'un seul homme
qui a en tête plusieurs objectifs, éventuellement, et pas simplement celui de gagner la guerre, aussi, si on est en guerre, ou d'obtenir le succès de l'opération.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier. Dans cette édition des Racines du présent, nous interrogeons notre passé, en particulier notre passé militaire. Nous nous demandons pourquoi et comment, depuis 1962, la France est plus ou moins, toujours d'une certaine façon, en guerre. Nos deux invités, Michel Goya, pour son livre « Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours », c'est publié chez Talendier, et Laurent Larcher, journaliste à la Croix, spécialiste de l'Afrique. Alors, on va commencer, Michel Goya, avec un épisode tout à fait oublié, tout à fait méconnu, qui ouvre votre livre. C'est la crise de Bizerte. Nous sommes le 26 juillet 1961. On va écouter cet extrait du journal télévisé qui va peut-être réveiller des souvenirs chez certains de nos auditeurs. On écoute.
On pouvait redouter que l'agitation entreprise par le président Bourguiba au début de juillet produise des incidents. On sait maintenant ce qui en est résulté. En donnant un tour aigu à ses revendications sur la base de Bizerte, occupée selon des conventions régulières par la France, celui qu'on donnait pour un homme politique avisé et prudent est arrivé au drame. On sait ce qu'est Bizerte. Un goulet étroit qui mène de la mer au lac intérieur. Rade magnifique et sûr, où pourrait évoluer toute une flotte. Puis, une ville établie sur les bords du goulet et qui a donné son nom à l'ensemble. Enfin, la base navale créée par la France. Au centre de la Méditerranée, la position de Bizerte est primordiale puisqu'elle commande le détroit de Sicile. Cette importance a suscité le destin de Bizerte où les installations de la base en noir sur la carte sont dispersées sur les rives du lac. Ces installations, en dehors même de l'amirauté et des points de mouillage des bâtiments, comportent tous les services annexes d'un port. Ateliers, bassins, magasins, casernes, hôpital. Et un aérodrome dont la piste devait être allongée de 2 à 3 mètres. Ce projet, M. Bourguiba le transforma en défi. Il décida de bloquer la base de Bizerte. Des milliers de volontaires civils requis par le néo-destour commencèrent à creuser des tranchées et à établir des barrages, interrompant ainsi la libre circulation entre les services de la base répartis autour du lac. Autour de l'aérodrome, on établit un réseau de tranchées et des emplacements pour l'installation de mortiers et de canons. L'épreuve de force déjà se discernait. L'opinion tunisienne, chaque jour chauffée par une propagande incendiaire, suivait le chemin dangereux tracé par son chef. Et l'on en arriva aux manifestations organisées devant l'ambassade de France, où même les femmes, enrégimentées, vinrent prêter un premier concours avant d'être employées, comme on devait le voir plus tard, aux barricades.
Voilà, nous étions donc en juillet 1961, nous sommes en Tunisie, la Tunisie est nouvellement indépendante, présidée par Habib Bourguiba, et puis donc, ben voilà, la France est rentrée en guerre, et il y a eu un affrontement militaire, Michel Goyard, racontez-nous.
Oui, alors c'est en réalité une confrontation, c'est-à-dire qu'on se retrouve au début en dessous du seuil de la guerre ouverte, confrontation où les Tunisiens essaient par la pression de faire céder la France,
oui.
De faire quitter cette base. Ça débouche sur une guerre ouverte de quelques jours, limitée dans l'espace et dans le temps, mais avec des combats extrêmement violents. Donc le général de Gaulle, et c'est pour cela que je prends cet exemple comme point de départ, c'est-à-dire que là, on a une opération typique finalement de ce qu'on va connaître par la suite. Le président de la République qui décide seul, qui envoie des forces professionnels qui sont en intervention très rapide, qui arrivent sur place, qui sortent en parachute, qui sont déposés par la suite et qui dégagent la base en combattant l'armée tunisienne qui se trouve tout autour de ces deux bases. Il y a une base aérienne, une base navale. Et donc, au bout de trois jours, la base est effectivement dégagée. Les combats sont très violents. Il y a eu 27 soldats français qui sont tombés dans cette opération, mais plusieurs centaines de soldats tunisiens. Et finalement, le général de Gaulle obtient gain de cause dans la mesure où les Tunisiens arrêtent, cette période de confrontation. En réalité, la base sera rétrocédée à la Tunisie
finalement
quelques années plus tard. Mais le général de Gaulle ne voulait pas, absolument pas, que la France se fasse imposer une décision par.
C'est le début d'une longue série d'interventions, notamment en Afrique. Alors, on a coutume de dire que la France et les Français sont les gendarmes de l'Afrique, mais vous dites, Michel Goyard, dans votre livre, c'est un surnom dont la France a horreur. Expliquez-nous.
Oui, alors ça, c'est une autre particularité française qui fait qu'on a, on est autant parti en intervention, c'est que la France est la seule ancienne puissance coloniale qui a conservé des liens militaires très forts avec un certain nombre de ses colonies africaines, des anciennes colonies africaines, avec des bases prépositionnées et des accords de défense. Et donc, cela nous oblige d'une certaine façon, parce qu'il y a un certain nombre de liens et d'accords qui nous obligent à intervenir. Au début, on pense que ce sont des choses qui sont assez limitées. Et puis, finalement, on va se retrouver engagé de plus en plus.
En Centrafrique. En Côte d'Ivoire, au Zaïre.
Avec toujours beaucoup plus qu'on avait anticipé au départ, avec une guerre qu'on va mener au Tchad pendant trois ans, c'est quelque chose qu'on ne voulait absolument pas faire, mais avec toujours cette ambiguïté qui existe toujours, de trouver une situation d'être l'ancien colonisateur qui intervient et qui est présent. On est présent militairement en Afrique. La France est toujours une des premières, peut-être la première puissance militaire en Afrique.
Encore aujourd'hui,
oui. En Afrique subsaharienne. Et avec cette difficulté ou cette ambiguïté qui veut que si on n'intervient pas quelque part, on sera accusé de non-assistance à pays en danger ou de ne pas appliquer des accords ou des liens particuliers. Et si on intervient, très rapidement va surgir l'accusation d'intervention néocoloniale,
c'est ça.
Etc.
La montée d'une opinion anti-française au Mali, par exemple, dont on reparlera à propos de la force Barkhane. Je me tourne vers Laurent Larcher. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un familier du théâtre d'opérations africain. Vous avez accompagné aussi nos soldats sur certains théâtres. Comment vous comprenez aujourd'hui cette fameuse expression « gendarme de l'Afrique » Laurent Larcher, est-elle justifiée ?
Compliqué, mais je voudrais revenir, si vous voulez bien, sur Bizerte, puisqu'on est dans une émission d'histoire. ce que a dit Michel Goya est évidemment juste, mais il me semble qu'il manque d'autres éléments pour comprendre un peu à la fois ce qui s'est passé, mais surtout la répercussion que ça va avoir dans la manière dont la France va être perçue au Maghreb. Bizerte, rappelez-vous quand même, c'est une emprise française, au moment qui appartient en principe à la Tunisie. La Tunisie est indépendante depuis 1956. La 4e République décide de garder cette emprise contre la souveraineté des Tunisiens. Et évidemment, alors ensuite il y a des raisons politiques, etc., de manipulation, d'instrumentalisation, mais du point de vue en tout cas de la sensibilité, et je dirais de la fierté tunisienne, cette présence française était inacceptable. C'était un terrain qui n'appartenait plus du tout à la France, mais qui appartenait à la Tunisie. J'ajoute ensuite que effectivement c'était un combat très violent, mais les soldats français n'ont pas tiré que sur des soldats tunisiens, ils ont aussi tiré sur des civils. Alors on dit que Bourguiba a instrumentalisé beaucoup de civils, les a envoyés un peu au casse-pipe, mais la force française n'a pas tiré que sur des hommes armés et sur des adversaires. Elle a aussi tiré, c'est d'ailleurs ce que les Tunisiens lui reprochent encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui,
On parle, les Tunisiens disent 5000 morts, ce qui est sans doute beaucoup, les historiens sont plutôt autour de 600 victimes, et c'est surtout des civils, mais ça reste là quelque chose qui relève d'une crise et d'un nœud qui reste très fort encore.
Voilà l'ambiguïté, en vous écoutant Laurent Larcher, en écoutant aussi Michel Goya, de l'ambiguïté de toute intervention militaire française. C'est-à-dire que la frontière entre civils et militaires n'est pas toujours très très claire. Je reviens sur ma question, Laurent Larcher. Gendarme de l'Afrique, ça vous paraît une expression appropriée ?
Non, c'est compliqué. C'est une expression qui a été utilisée surtout dans les 70-80, effectivement, lorsque la France, même dans les 60, lorsque la France... Mais est-ce que, d'abord, elle a plus les moyens de l'être, et je crois qu'elle n'en a plus vraiment le désir. Ce qui est très très frappant, au fond, aujourd'hui, enfin, on assiste vraiment à cela, c'est on est vraiment dans un moment de reflux des forces françaises en Afrique, même si elles restent encore présentes. Mais les opérations, les dernières opérations auxquelles j'ai assisté ou participé, vu d'assez de près, je pense notamment... qui ont été présentés d'ailleurs comme des victoires au départ, comme Serval, ont été faits avec des bouts de chandelle quand même. Il faut voir que, l'armée française, malheureusement, a très peu de moyens. J'ai assisté à des combats de soldats français qui partaient en première ligne avec des rangers collés au scotch, au Chatterton. La bataille des Iforas a failli être perdue par les Français. Enfin, si les Tchadiens n'avaient pas été là, on ne sait pas trop comment la chose aurait pu tourner. J'ai vu des jeeps, des camions d'attente, de camions de soldats datant de 1965 ou 1966, des hélicoptères qui dataient de la fin des années 70, des pannes à répétition, des opérations annulées, des missions qui n'ont pas pu être menées au bout en raison d'un matériel défectueux, d'un sous-équipement impressionnant de l'armée française. Sachez, c'est ce que je disais dans le livre Au nom de la France, qu'au moment de Serval ou Sangaris d'ailleurs, donc au début des années 2013-14, un soldat français qui partait en opération payait sur ses propres fonds environ 2 500 € pour s'équiper. C'est-à-dire que l'équipement qu'on lui donnait n'était pas adapté au terrain de son opération. Du coup, il, sur ses propres fonds, en moyenne, chaque soldat dépensait 2 500 €, hein, quand même, c'est pas rien.
Michel Goya, vous évoquez dans votre livre cette pauvreté de moyens, vous évoquez les difficultés budgétaires, on se souvient de la tension entre le président Macron et le général de Villiers. Est-ce que vous confirmez cette pauvreté de moyens, est-elle toujours d'actualité? Comment la voir aujourd'hui, Michel Goya?
Alors, c'est plus forcément d'actualité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, en particulier dans toute la période qui va de 1990, de la fin de la guerre froide, à 2015, on a une contradiction, puisqu'on va intervenir militairement de plus en plus, et dans le même temps, on va réduire les moyens,
tout
simplement, on va réduire les budgets. La période qui va de 2013, à partir de 2013, effectivement, c'est l'opération Serval au Mali, qui va devenir après l'opération Barkhane, mais en même temps, on va s'engager en Irak, dans la coalition américaine, mais en même temps, on va s'engager aussi...
Oui, simultanément.
En Centrafrique, et en même temps, on va envoyer 10 000 soldats dans les rues de France, de Sentinelle, donc là, on a une extension considérable des engagements, tout en diminuant les budgets, et ça, depuis 25 ans. Donc forcément, au bout d'un moment, ça craque.
On est à l'os, si j'ose dire.
On est à l'os. Oui. Et à partir de... Il faut les attentats de 2015 en France pour faire changer les choses, pour changer les perceptions et rebondir un petit peu changer de perspective. Ce qui est toujours le cas, hein, en réalité. Hein. On a simplement augmenté les budgets depuis 2015 avec un petit hiatus, effectivement, dans la première année, dans le premier exercice budgétaire du quinquennat du président Macron, où le ministre du budget de l'époque réduit à nouveau les budgets, et ce qui provoque effectivement une crise interne, parce que on était, il faut bien comprendre qu'en 2015, on était quand même dans une situation où l'armée française était un petit peu au bord de l'effondrement.
Carrément.
Oui, matériel. Oui.
On peut le dire.
Au moins matériel et même humain. Hein. On était en train de supprimer 80 000 postes. C'était. Non, il faut bien. On était en situation de crise interne très forte.
Oui. D'accord. Alors, on va poursuivre notre voyage à travers l'histoire, à travers un document sonore qui va nous retracer dans quelques secondes ce qui s'est passé à Colvézi. Colvézi, c'est un nom qui est resté un peu mythique dans l'actualité. La Légion a sauté sur Colvézi, c'était en 1978, et on va écouter ces témoignages qui ont été réalisés par l'établissement cinématographique des armées. On écoute.
Ils nous ont mis le long du mur. On était condamnés à être fusillés.
Et on était à genoux, avec les fusils dans la nuque.
Ils m'ont dit, en swahili, kwenda kwako. Ça veut dire retourner chez vous. Je dis, maneno, pourquoi? Et ils m'ont dit, vita. Vita, c'est la guerre.
4000 ex-Katangais ont attaqué la nuit dernière un important centre minier de la région du Chaba, au sud-est du Zaïre.
Il y a eu l'agressivité, il y a eu ces tirs de mitraille dans la maison, les murs se sont fissurés sous les impacts.
Le nombre des victimes civiles se serait accru et il y aurait des Français parmi elles.
C'est une opération humanitaire, vous ne pouvez pas vous y opposer. Il faut que la Belgique intervienne et sauve des vies humaines.
À partir du moment où j'ai su qu'il y avait vraiment une menace très forte de violence et de mort, il faut bien le dire, hein, la décision s'est prise.
On croit savoir d'ores et déjà qu'un millier de militaires français sont prêts à décoller de Corse à bord de 3 DC-8 de la compagnie UTA.
Si la Légion n'avait pas sauté, on ne serait pas aujourd'hui là pour en parler.
Voilà, c'était en mai 1978, vous avez reconnu la voix de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qui a expliqué pourquoi et comment il a jugé nécessaire d'envoyer depuis la Corse, depuis la base de Solenzara, la Légion étrangère. 3000 ressortissants européens, belges et français, ont été à cette époque la cible de massacres perpétrés par ce qu'on appelait les tigres katangais. Et donc la Légion a sauté le 19 mai 1979 et a libéré la ville. Michel Goya, quel souvenir vous gardez de cette affaire ?
Ah, c'est une opération importante. C'est une opération audacieuse. Hein. Il faut quand même se rappeler qu'on fait sauter le 2e régiment étranger de parachutistes, 600 hommes, on les fait sauter directement sur la ville et directement sur l'ennemi. Un ennemi qui est plus nombreux et qui est mieux armé. On revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Qui est mieux armé que les légionnaires. Donc c'est quelque chose qui est assez audacieux de la part du président de la République directement, hein, qui prend cette décision, et de la part de ceux qui l'ont exécuté, et qui va s'avérer effectivement comme une des opérations les plus spectaculaires et les plus évidemment très victorieuses. Mais cinq légionnaires vont y laisser leur vie, mais ils vont repousser les tigres katangais qui vont revenir en Angola. Et ils vont, avec une opération belge qui va survenir quelques jours plus tard, sauver et rapatrier un certain nombre de ressortissants européens. Donc voilà, une grande et belle opération spectaculaire.
Oui, on sent le militaire qui vibre en vous. Hein,
c'est... bon. Oui, mais qui correspond aussi à une période une période particulière qui se déroule sur 2 ans pratiquement, mm-hmm. où le président Giscard d'Estaing va lancer un certain nombre d'opérations militaires.
Alors,
en Mauritanie d'abord.
On a oublié la Mauritanie. Hein. C'est ce que vous appelez le temps de la foudroyance, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que là, on a... revient sur les particularités du système français. On a un système de décision qui est très rapide, hein, parce que le président seul décide. On a des forces qui sont présentes, rapides, qui peuvent agir très rapidement, des forces professionnelles, soit sur place en Afrique, soit de venant de métropoles, notamment les unités Guépard, d'où le titre de... du livre, en alerte guépard, et qui peuvent voilà, intervenir très vite sur certains points. Et donc le président Giscard d'Estaing, qui au départ n'était pas forcément très interventionniste, d'un seul coup va lancer, on est dans une période de guerre froide aussi assez intense, hein, c'est-à-dire qu'il y a une pénétration soviétique en Afrique et des combats très violents avec un reflux en même temps américain, et donc la France se retrouve un peu en première ligne et s'engage à Colvézi, où on va avoir une période d'alliance avec le Zaïre, une alliance militaire avec le Zaïre du président Mobutu. Mais aussi, le tournant, ce sera au Tchad, où quasiment en même temps que Colvézi, on s'engage à nouveau, parce qu'on s'était déjà engagé fortement une première fois jusqu'en 72. On s'engage à nouveau avec l'opération Taco en 78. Jusqu'à, et là aussi il y a un certain nombre de combats qui sont complètement oubliés, mais qui sont aussi violents que ce qui se passe à Colvézi, qui se déroule au Tchad, jusqu'en 79, où là, et ça c'est un moment de bascule, c'est-à-dire que là, le président Giscard d'Estaing décide de ne plus intervenir directement au combat, et de se placer déjà dans une forme d'interposition. Et en réalité, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Et on sera obligé d'évacuer militairement le Tchad en 80. Ce sera le premier échec militaire véritable de la 5e République.
Et la France est toujours aujourd'hui présente à N'Djamena.
Oui, parce qu'on va y revenir.
Voilà, c'est ça. C'est une fatalité ou c'est une constante? Je m'adresse à l'historien Michel Goya.
Ben le Tchad, il y a deux grands théâtres d'opération. C'est le Liban et le Tchad. Voilà, on parlait des soldats qui sont tombés. La moitié des soldats français qui sont tombés en opération sont tombés au Liban et au Tchad. Et donc au Tchad, oui, on est revenu régulièrement. Après l'opération Taco, ce sera l'opération Manta en 1983, l'opération Épervier qui va lui succéder, où là on va se retrouver en confrontation avec la Libye essentiellement, du colonel Kadhafi qui a des ambitions dans la région, qui a des alliés aussi locaux, et depuis cette époque on y est militairement, on y est en permanence.
Et aujourd'hui N'Djamena est l'un des nœuds de notre dispositif
La N'Djamena, c'est là où se trouve l'état-major de l'opération Barkhane.
Voilà. Il faut rappeler qu'au Tchad, nous avons soutenu successivement diverses factions. Hissène Habré, qui avait assassiné le capitaine ou le commandant Galopin. Voilà. Et puis ensuite, Hissène Habré a dû quitter le pays. Et puis aujourd'hui, Idriss Déby. C'est une constante inquiétante quand même, non?
La politique de la France, c'était de maintenir la stabilité des pouvoirs en place.
Voilà. Des pouvoirs en place.
Voilà, quel qu'il soit. Et donc, à ce titre, on est intervenu au Tchad en 69 pour soutenir le président Tombal Baye, qui était en très grande difficulté face à une guérilla qui s'était développée. C'est une opération militaire, là aussi, totalement inconnue, mais qui a plutôt réussi. On a réussi à peu près à rétablir la sécurité. Puis on est revenu en 78, je l'évoquais, à ce moment-là, il y a un conflit, c'est le pays a basculé dans le chaos. Plusieurs factions s'opposent. On tente de rétablir la situation, ça ne marche pas. Puis Hissène Habré prend le pouvoir. Alors effectivement, ce n'est pas ça a longtemps été notre adversaire, mais c'est de facto c'est lui qui a le pouvoir. Donc quand il nous appelle, demande notre aide, ben on lui accorde. Puis finalement, quelques années plus tard, il sera remplacé par Idriss Déby, qui aura plus nos faveurs et qui sera un vieil allié pendant très longtemps.
Alors Laurent Larcher, je me tourne vers vous, l'observateur de l'Afrique. Quel regard porter sur cette constante, par exemple, cette constante française au Tchad?
C'est compliqué, mais il y a la question de la stabilité. Ça, c'est évidemment l'argument qui est avancé depuis le début. Mais c'est aussi, je pense, quand même, d'avoir là-bas des hommes entre nos mains. Enfin, on vous parlait d'Hissène Habré, c'est pas qu'il est parti du Tchad, c'est qu'on lui a dit, c'est terminé, maintenant vous ne soutient plus, et c'est votre ancien chef d'état-major enfin c'est votre ancien bras droit Idriss Déby qu'on va soutenir. C'est en conseil de défense d'ailleurs hein, que la chose a été décidée en 1990 je crois. Mm-hmm. On envoie des Français à N'Djamena pour le signifier à Hissène Habré qui part en 24 heures. En fait la stabilité oui, mais c'est surtout on entend par stabilité des gens qui sont vraiment en notre dans les bonnes comment dire entre nos mains, enfin qui sont vraiment oui. nos affiliés ou nos fidèles. Parce que là, il y a une autre dimension, je crois, dans la politique française en Afrique qui n'est pas souterraine. En tout cas, c'était très clair chez De Gaulle. Ça l'était un peu moins peut-être. Si, ça l'était aussi sous Giscard, mais ça l'était encore très très net sous Mitterrand. C'est aussi l'affrontement. Il y avait la guerre froide, bien entendu, mais aussi un autre affrontement un peu moins clair, mais très très violent et très important, qui est avec le monde anglo-saxon.
Oui.
Et là, parce qu'on vous parliez des guerres de la France, il y a les guerres directes, mais il y a aussi les guerres indirectes. On n'a pas parlé, par exemple, de ce que De Gaulle a fait au Biafra, par exemple, où nous avons, le général De Gaulle, à travers Focard, mmh. a soutenu la rébellion biafraise en envoyant des mercenaires, de l'armement, et même des soldats français. Il y a des hussards qui étaient au Gabon, ou en Côte d'Ivoire, pour tenir l'aéroport et envoyer du renseignement et de l'armement, des munitions et des mercenaires, qui étaient d'ailleurs des anciens soldats français, pour soutenir la rébellion biafraise, mm-hmm. dans un souci de contenir, ou de diviser l'Afrique anglophone et de récupérer une partie dans la zone francophone. Il y a aussi ce conflit très important qui va déboucher, il me semble, à la tragédie rwandaise, dans la perception de la France, que la France a de l'Afrique. C'est aussi un enjeu, un théâtre de conflit avec et d'influence avec le monde anglo-saxon.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Vous êtes toujours sur RCF et vous avez bien raison. Les racines du présent aujourd'hui, comme chaque semaine avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur pourquoi et comment, depuis 1962, la France est en guerre. Nous parlons beaucoup de l'Afrique avec nos deux invités, Michel Goya, à la fois militaire et historien, historien et militaire, pour son dernier livre, Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours chez Talendier. Et puis, Laurent Larcher, journaliste à La Croix, spécialiste de l'Afrique, qui a publié un livre intitulé notamment, parmi les plusieurs livres qu'il a publié, un livre intitulé « Rwanda, il parle ». C'était publié en 2019 au Seuil pour sous-titre « La France au Rwanda 1990-1994 ». Alors le moment est donc venu d'aborder ce dossier rwandais. Michel Goya, vous écrivez à propos du Rwanda, qui n'est pas, il faut le rappeler, qui n'est pas une ancienne colonie française, contrairement aux autres pays qu'on vient d'évoquer. Vous évoquez un engagement ambigu à propos du Rwanda. Vous rappelez le faible de François Mitterrand pour le président Hutu Habyarimana, et vous écrivez, Michel Goya, il aurait sans doute mieux valu que la France n'intervienne pas et que le FPR, donc la partie adverse, les Tutsis, prennent tout de suite le pouvoir, ou inversement, que la France combatte vraiment le FPR et sauve le régime. Et on a préféré l'entre-deux. François Mitterrand s'est obstiné à soutenir le pouvoir en place malgré toutes les alertes sur l'organisation d'un génocide. Rappelez-nous, Michel Goya, ce qui s'est passé.
Oui, alors on intervient au Rwanda, comme vous l'avez rappelé, effectivement, ce n'était pas une ancienne colonie française. On a des liens, on a des accords de défense, mais c'est un pays francophone. C'est à l'époque où le président Mitterrand, après au congrès de La Baule, a dit « voilà, écoutez, maintenant on change d'époque et tous les régimes devront être démocratiques ». Sinon, nous cessons notre aide.
Ce qui n'a pas été un franc succès.
Ce qui n'a pas toujours été un franc succès. Non. Alors, il se trouve que j'étais au Rwanda. J'ai fait opération Norwa en 1992. Je voyais à peu près ce que ça donnait, la démocratisation sur place.
C'est-à-dire l'exacerbation de clans ethniques, c'est ce que vous écrivez dans le livre.
Oui, oui, c'est-à-dire que les partis... On a imposé la création de partis. Bon, les partis ont été créés. Et chacun, la première chose qu'a fait chacun de ces partis, c'est de créer sa propre milice. Plus radical que les autres, et des affrontements politiques, des vrais affrontements sur le terrain, dans les rues. Quoi.
Alors, quelle pouvait être la place des militaires français au milieu de tout ça ?
Oui, alors, et puis donc, en 1990, le président Habyarimana demande, qui est attaqué par le Front patriotique rwandais, qui est recruté parmi les exilés Tutsis, essentiellement, qui étaient en Ouganda, voisins, qui est un parti un petit peu un parti armé, une organisation armée qui est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que disciplinée, bien organisée, avec un fort contenu idéologique et qui est très nettement supérieur à ce qu'on peut lui opposer en face, ce que le régime Biarimana peut lui opposer. Et c'est d'ailleurs un des drames de un peu de nos interventions, c'est que on vient par définition venir en aide à des États qui sont faibles, souvent faibles parce que corrompus.
Ou prédateurs,
etc., ouais. Face à des organisations qui, en réalité, sont souvent plus fortes qu'eux. Et là, en plus, particularité, c'est que Mitterrand est très interventionniste, mais il refuse les engagements directs. Et donc, il faut se débrouiller pour stopper, d'une certaine façon, le FPR, mais sans le combattre, tout en le combattant un petit peu quand même.
Donc une situation difficile pour les militaires.
Voilà, où concrètement on était sur le terrain, on aidait l'armée rwandaise, l'armée régulière rwandaise, et on empêchait le FPR, on dissuadait le FPR de s'attaquer à Kigali, d'aller jusqu'à la capitale Kigali. Bon, et quand l'opération se termine en 92, tout le monde à Paris se félicite en disant ben voilà, on a obtenu ce qu'on voulait, le FPR a été contenu, on a imposé démocratisation du régime, il y a eu des accords entre le FPR et le régime, les accords d'Arusha, et donc tout va bien.
Et en fait, non.
Quelques mois plus tard,
l'avion du président, c'est
la catastrophe. Oui, l'avion du président Habyarimana et du président burundais explose.
À l'arrivée à Kigali.
Voilà, il est détruit à l'aéroport de Kigali. Et dans la foulée, on assiste à des séries de massacres de la population Tutsi, massacres organisés, qui est préparé et organisé. Et là, effectivement, on se retrouve dans une situation qu'on aurait pu anticiper très, très clairement. Et avec une ambiguïté, et on se retrouve, j'y reviens, c'est une position de cohabitation. On se retrouve très clairement avec un président qui, une présidence en France qui continue à vouloir soutenir le régime en place. Une des premières décisions actions que l'on mène à ce moment-là, c'est d'évacuer la veuve du président Habyarimana. Alors que c'est une des principales responsables.
C'est ça.
Du génocide. Hein.
C'est aujourd'hui clair.
Oui. Et que, voilà, le président Mitterrand l'accueille à son arrivée et lui accorde une pension conséquente pour vivre en France, quoi. Et on se retrouve en situation où, finalement, d'un côté, la présidence est très embêtée, mais continue un petit peu à vouloir soutenir le régime en place. Et puis, une opposition en France, c'est le Premier ministre, c'est Édouard Balladur à ce moment-là, qui est beaucoup plus hostile, on va dire, réservé.
Et vous écrivez, Michel Goya, par quelle naïveté n'a-t-on pas vu qu'en intervenant, même de bonne foi, avec les meilleures intentions, avec l'opération turquoise, on allait avoir en face de nous les Tutsis qui avancent, c'est-à-dire les victimes, et derrière nous, une partie de ceux qui ont procédé au massacre.
Oui.
Et on voit la difficulté pour nos militaires à ce moment-là.
Oui, bien sûr. Alors c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on engage une opération humanitaire, on appelle ça à l'époque une opération humanitaire armée. On arrive, on sécurise une zone et on dit, voilà, on empêche les massacres dans cette zone. Bon, déjà, on arrive à tardivement. La plupart des massacres ont eu lieu. Au passage, quand même, il faut quand même souligner qu'on est un petit peu aussi les seuls à le faire. On accuse beaucoup la France, mais on est quand même un petit peu les seuls à vouloir faire quelque chose, à tenter de faire quelque chose. Les Nations Unies ne font absolument rien, c'est une catastrophe absolue. Les États-Unis, qui sont tout autant au courant que nous de ce qui se passe, ne bougent absolument pas le petit doigt. Donc on tente malgré tout quelque chose. C'est très imparfait, les moyens sont limités. On n'empêche pas certaines choses parce qu'on ne peut pas. On n'empêche pas l'évacuation ou la fuite d'un certain nombre de génocidaires parce que là aussi on ne sait pas très bien quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ces gens-là. Et puis surtout, on se retrouve dans une situation où on intervient dans un pays en disant, voilà, écoutez, non, cette fois, nous sommes neutres, nous sommes là dans une opération militaire, ce qui est vrai, face à des gens que l'on a combattu, contre qui on était en conflit quelques mois plus tôt.
Voilà, donc
comment pourrait-on imaginer que ça allait passer comme ça?
On voit l'extrême difficulté, oui. L'extrême ambiguïté. Alors, je me tourne vers Laurent Larcher. Vous avez enquêté précisément sur ce dossier du Rwanda. Je rappelle le titre de votre livre publié au Seuil en 2019. Rwanda, il parle, la France au Rwanda, 1990-1994. Est-ce que vous confirmez les propos de Michel Goya, Laurent Larcher?
Voilà, je ne vais pas affirmer ou confirmer.
Oui.
Mais en revanche, je peux discuter. Je pense qu'il manque quelques éléments dans la manière
dont
la chose a été présentée, mais c'est un sujet très compliqué, donc
oui.
Il faudrait beaucoup de temps et plus que quelques minutes comme ça.
Malheureusement, nous n'avons que quelques minutes, mais allez-y, Laurent, on vous écoute.
Bien, et puis c'est un sujet, parce qu'en fait, on parle de massacre, mais surtout on parle de génocide, on est quelque chose devant tellement énorme, tellement gigantesque, qui affecte notre intelligence, notre sensibilité, notre affectif, etc. Ce que je veux dire, c'est que donc c'est compliqué pour nous, et puis on a une histoire très très, on est impliqué dans cette histoire. Alors ensuite, quel est le degré d'implication? Là, il y a un vrai débat, mais nous avons été, et ça personne ne peut le nier, je crois quand même, la puissance tutélaire d'un régime qui a commis un génocide et qui a commis le dernier génocide du XXe siècle. Et cela, évidemment, mérite de la part de nous tous beaucoup d'humilité. Donc quand on aborde cette question-là, mais aussi beaucoup de sincérité, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. C'est très compliqué parce que, encore une fois, on parle de la chose la plus épouvantable, à savoir l'extermination de masse d'un groupe, simplement parce qu'il est ce groupe-là. Quand on dit que la France s'engage comme ça dès 1900, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mon sens, l'erreur effectivement de l'exécutif de l'époque, à savoir François Mitterrand, mais pas simplement François Mitterrand, parce qu'il est aussi entouré d'un état-major particulier, il y a aussi l'état-major, enfin le SEMA, il y a toute une équipe, si je peux dire, qui abonde dans le même sens, hein, qui est, il faut effectivement arrêter le FPR, et je dirais un peu coûte que coûte, même s'il n'y a pas d'intervention directe, c'est surtout, il faut arrêter le FPR, et c'est là qu'il y a peut-être moyen d'interroger pourquoi on a voulu arrêter le FPR, alors, et c'est là sans doute que pour moi résulte la faute, là il y a une faute morale, éthique énorme, alors que le régime en place est un régime raciste, qui est un régime qui commet depuis, quand on connaît un peu l'histoire du Rwanda, qui commet quand même des exactions contre les Tutsis depuis la naissance de ce pays, la création de ce pays en 1961, enfin même en 59, et surtout alors que ce régime commet déjà des 90, 91, 92, il y a des massacres de Tutsis, notamment dans le nord-est, les Français le savent, les militaires, le renseignement, la mission de coopération, tous ces gens dont le métier est d'encadrer et d'avoir du renseignement, c'est très bien qu'il y a une dérive très 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 dure de ce vis-à-vis d'une population tutsi parce qu'elle est tutsi, et en connaissance de cause on continue à soutenir ce régime non seulement jusqu'en 94, mais il y a aussi un débat pendant le génocide, qu'avons-nous fait, du moins qu'a fait l'exécutif pendant l'opération turquoise? On la présente comme une opération humanitaire. Oui, il y avait évidemment un volet humanitaire, mais Michel Goya le disait, la mission était d'arrêter les massacres, mais on n'arrête pas les massacreurs. On s'engage dans un coin, d'un côté, donc de fait, même si c'était pas forcément la volonté de l'exécutif, mais de fait, on permet à un régime génocidaire de s'en sortir et d'aller aux Zaïre. Et puis après, qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que l'histoire ne s'arrête pas évidemment à l'été 94, mais nous continuons, du moins l'exécutif va continuer à juger Kagame, enfin le président Kagame, comme la pire personne, enfin le responsable de tous les massacres, de toute cette catastrophe. On ne soutient pas le Rwanda jusque dans les années, il faudra attendre Emmanuel Macron au fond, pour que véritablement il y ait on repense le sujet de manière beaucoup moins polémique, beaucoup moins partisane, et de manière un peu plus sensée vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant les années 90.
Oui.
En ce sens, le rapport du Clerc a été une avancée spectaculaire, mais il a fallu attendre 27 ans
On voit bien, en vous écoutant, Laurent Larcher, la complexité d'un contexte, les implications politico-ethniques. Alors, on va le voir, cette complexité se manifeste également dans un pays qui fait aujourd'hui l'actualité, c'est le Mali, où la France est engagée depuis maintenant 2013, suite à la décision de François Hollande. On se souvient que François Hollande avait expliqué que c'était le plus beau jour de sa vie. Et puis aujourd'hui, on est au Mali, et puis aujourd'hui, les convois militaires français se font bloquer au Niger. L'affaire est très très compliquée. Laurent Larcher, vous avez été en reportage à plusieurs reprises au Mali. Michel Michel Goya, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, parce que malheureusement le temps passe, le contexte général de notre intervention au Mali?
Alors, nous sommes intervenus militairement directement au Mali en janvier 2013. Il faut bien comprendre que c'est un retournement spectaculaire. Hein. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était en 79, quand on avait engagé directement des troupes françaises au combat contre un ennemi sur place. On le fait parce que tout le nord du Mali est aux mains d'organisations djihadistes et que ces organisations font peser une menace directe sur l'ensemble du pays et en partie également sur la région, que les solutions, j'allais dire, alternatives à une intervention militaire française marchent pas très bien, sont lentes. Une force africaine devait intervenir, mais c'était pas encore en place.
Ça, c'est une constante. Hein. On attend toujours les forces africaines sur ce théâtre
d'opération. Effectivement, ça passe. Pour tout un tas de raisons, c'est toujours très compliqué à mettre en place. En janvier 2013, il y a une attaque qui est menée par un de ces groupes djihadistes, Ansaridine, un groupe Touareg djihadiste. François Hollande décide d'engager directement la force. Donc l'opération Serval qui stoppe cette...
Donc il y a un coup d'arrêt.
C'est un coup d'arrêt. Et puis on décide finalement de reprendre pied dans le nord du pays et de libérer les villes du nord de l'emprise de ces groupes.
Donc, alors, sur ce point précis, vous écrivez, Michel Goya, la France demande à Bamako de ne pas accompagner ses soldats à Kidal, capitale de l'Azawad, c'est-à-dire territoire touareg putatif, enfin virtuel, car elle compte se faire un allié du MNLA contre les djihadistes.
Oui, ça c'est quelque chose qui nous est reproché depuis très largement. C'est-à-dire, et c'est là, c'est toute la complexité des choses. C'est-à-dire que pour Bamako, il y a des groupes djihadistes, effectivement, mais il y a aussi des groupes Touareg, il y a d'autres groupes. Enfin,
vous
avez à peu près une trentaine d'organisations de milices armées au Mali, et dont juste quelques-unes sont combattues par la France parce qu'elles sont djihadistes. Et donc là, oui, il y a toute la difficulté, toute l'ambiguïté. Je pense pour ma part que l'opération Serval est une réussite militairement.
Souvent les opérations militaires du reste. La question c'est et après.
Oui, non, mais ces interventions rapides, c'est une réussite assez spectaculaire. Je pense pour ma part qu'on aurait dû s'arrêter là et se retirer à ce moment-là du Mali. Mais on décide de rester parce que on est pris dans une sorte un petit peu de, j'allais dire, d'euphorie.
Ou d'illusion, peut-être.
De la victoire. Oui. Parce qu'on se dit, ça va permettre de faire passer, jouer sur la transition avec des institutions plus démocratiques, parce qu'à ce moment-là, le régime malien, c'est un régime de coup d'État, comme aujourd'hui.
Et encore aujourd'hui, oui.
Voilà, que les Nations Unies vont prendre le relais,
avec la MINUSMA. Mais vous écrivez que la MINUSMA est un leurre.
Bien sûr, comme il y a une très grande majorité des opérations
de casque bleu. Vous êtes très sévère dans votre livre sur les opérations casque bleu. Y compris quand la France est engagée.
Oui, et peut-être surtout.
Oui, c'est ça. Nous ne savons pas être des soldats de la paix. Ce n'est pas notre vocation. C'est ce que vous constatez.
Je constate surtout que ça ne marche pas très bien sur le terrain. Quoi. C'est ça la grande difficulté. Ça coûte très cher et que ça ne fonctionne pas en réalité.
Laurent Larcher, vous êtes allé en reportage au Mali. Vous avez suivi les troupes françaises. Quel regard portez-vous sur cet engagement, l'engagement de Barkhane aujourd'hui?
Il a évolué évidemment, mais je dirais même des Serval quand même. Effectivement, il y a eu une victoire, enfin une bataille qui avait été remportée, mais la guerre était loin d'être gagnée. Et pas en janvier, mais moi j'ai retourné avril et mai 2013. Pour mes contacts que j'avais à l'époque au sein de l'armée, notamment de ceux qui s'occupaient du renseignement, il était très clair que la guerre était loin d'être gagnée et qu'eux-mêmes déjà voyaient que la solution était pas militaire, ou du moins la France n'avait pas assez de moyens pour aller combattre les groupes djihadistes, notamment en Libye, mais aussi ceux qui se réfugiaient en Algérie, parce qu'il y a tout ce contexte sous-régional qui rend le conflit, il n'est pas sincère ce conflit, et les partenaires de la France, où la France intervient dans une zone qui est fluctuante, qui n'est pas très claire, dont les gens ou les acteurs politiques peuvent jouer un double ou un triple rôle, c'est des situations, la situation était déjà malheureusement, pardon de dire ainsi, mais pourrie dès le départ. Elle ne peut être vouée qu'à l'échec. Sachez que envoyer 5000 hommes pour toute la bande sahélo-sahélienne. Même les États-Unis, avec plus de 100 000 hommes en Afghanistan, n'ont pas pu régler la question talibane. Alors vous imaginez bien qu'avec nos 5 000 soldats...
Oui, ce territoire équivaut à la superficie de notre territoire national.
Aujourd'hui, Barkhane, c'est de la Mauritanie au Tchad, quand même.
Oui.
C'était totalement illusoire, mais très rapidement, les militaires le savaient. Je crois, en revanche, le politique n'a pas voulu l'entendre.
Alors malheureusement, on arrive bientôt au terme de cette émission. On n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire, on n'a pas parlé du Liban, on n'a pas parlé de l'Afghanistan. Mais quand même, je voudrais vous demander une sorte de regard global, Michel Goya. Lutter contre le terrorisme, lutter contre les insurrections, alors qu'on constate une faiblesse des États, souvent prédateurs, souvent corrompus. Est-ce que c'est pas vain? Quel regard peut-on porter sur nos engagements militaires aujourd'hui? Faut-il poursuivre, Michel Goya?
Oui, il faut poursuivre, bien sûr, mais bien comprendre aussi que c'est souvent une guerre de Sisyphe, hein, de certaines façons.
Oui,
hein,
c'est ça.
Il y a un éternel retour et il faut pas espérer. On parlait de Barkhane, et il faut pas espérer obtenir des victoires complètes, des redditions, des capitulations. Mmh. Non, c'est un éternel relancement. On parlait du Tchad. Tchad, on a intervenu plusieurs fois.
Oui.
Une capacité, effectivement, à intervenir militairement, c'est un atout pour la France, hein, mm-hmm. très clair, un atout politique.
Ça nous permet d'exister sur le plan international.
Exactement, c'est le but. Hein,
oui, c'est ça, au fond, le but, c'est ça.
Mais oui, non, mais...
C'est notre siège permanent au Conseil de sécurité.
Mais si on intervient fondamentalement, c'est surtout parce que les différents présidents, c'est une constante, veulent maintenir la place de la France,
c'est
le rôle
ça.
De la France. Quoi. On intervient parce que...
Et la dissuasion nucléaire.
La France se doit d'en être, se doit d'être présente.
C'est ça. Les ambiguïtés qu'on vient d'évoquer.
Même dans l'ambiguïté, même si finalement ça ne marche pas forcément très bien sur le terrain. Mais on existe par mm-hmm. nos interventions militaires. Et on existe toujours. Hein, le combat, là, on est toujours en guerre contre ces organisations armées, djihadistes, plus que jamais, même si on modifie notre posture. Et en même temps, on voit apparaître d'autres défis. Retour de puissance,
la cyberguerre,
et le retour de conflits de puissance de la Russie, de la
Chine. On pense à l'Ukraine, on pense à la Biélorussie.
Laurent
Larcher, il vous reste une toute petite minute. Ça vaut le coup de continuer à s'investir militairement en Afrique pour la France?
Écoutez, tant qu'on aura cette ambiguïté politique, c'est-à-dire à la fois soutenir des régimes qui ne sont pas à la hauteur des missions régaliennes qui leur déchuent, qui ne sont pas capables de s'occuper correctement de leur population, non, nos interventions sont vouées à l'échec. Mmh. C'est-à-dire que nos interventions permettent à des régimes qui ne s'occupent pas de leur population de se maintenir.
Voilà. Donc il y a une sorte de perversité.
Absolument, et ceci sera toujours un antagoniste. La périphérie se révoltera toujours contre le centre.
Voilà. Eh bien, nous serons attentifs à ce que va dire et faire la périphérie. Merci beaucoup, Laurent Larcher. Je rappelle le titre de vos livres. Au nom de la France, les non-dits de notre diplomatie en 2018 au CERF. Rwanda, il parle 2019 au Seuil. Et enfin, sur un sujet dont nous reparlerons plus tard, une énigme française. Pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés? C'est avec Jacques Semelin. Et ça sort ces jours-ci chez Albin Michel. Michel Goya, un grand merci pour la qualité de votre livre et de votre participation. Je recommande vivement la lecture nos auditeurs qui s'intéressent aux questions géopolitiques. Votre livre s'intitule « Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours ». C'est chez Talendier. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Vous pouvez évidemment réécouter Les Racines du Présent où vous voulez, quand vous voulez, en podcast et en baladodiffusion. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.